Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Le retour à la zone payante, Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadaret. Quatrième essai, messieurs, les questions en rafale. On va aller rejoindre ceux qui nous suivent sur les médias sociaux et qui nous écoutent chaque semaine. Et d'ailleurs, on vous en remercie. On est toujours très heureux d'avoir vos commentaires. Et on va répondre aux questions du public aujourd'hui, les gars. Vous avez beaucoup de fans.
On est prêts, on dégage pas.
OK. Maxime Denis, il nous demande si vous voyez les Colts en série.
C'est une bonne question. Présentement, est-ce que les Colts est une des meilleures équipes de la NFL? C'est là que oui, la réponse c'est oui. Présentement, actuellement, c'est une des équipes les plus hottes de la NFL.
5-1 à leurs 6 derniers matchs.
Exact. Puis les matchs qu'ils ont perdus, c'était quand même serré. Est-ce qu'ils devraient avoir une meilleure fiche qu'ils ont présentement? Oui, la réponse est aussi oui. Est-ce que je les vois en série? Je suis pas certain. Je pense que le calendrier est pas facile. Ils ont des équipes prenables, mais ça reste qu'il leur reste les Bucks cette semaine. C'est un gros, gros match pour les Colts. Il leur reste les Pats et les Cards. Je veux dire, ça va prendre des victoires à un certain moment donné. Donc, c'est ça, je trouve que le calendrier est pas favorable. Et le problème aussi, c'est qu'il y a plusieurs équipes dans la même situation que des Colts. Donc, une fiche similaire, donc ils sont plusieurs à se battre pour un seul spot. Est-ce que c'est les Colts qui
vont prendre comme fiche pour qu'est-ce que ça va prendre, Stéphane, comme fiche pour rentrer dans la série, tu penses?
Ça va prendre un 17 certainement. Parce
minimum, que, ouais.
Comme Jean allait le mentionner, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'équipes dans le même paquet là, tu sais, qui vont se retrouver avec du 9-8, du 8-9. Je pense pas que ça va le faire. Tu vois, Jean, tu mentionnais là, Tampa, Nouvelle-Angleterre et Arizona dans les matchs difficiles, va falloir que tu ailles en chercher un là-dedans. Parce que si tu leur donnes 3 victoires, mettons, assurées, bon, j'aime pas dire assurées, là, mais Houston, Las Vegas, qui va très mal en ce moment, puis Jacksonville.
Les Jags, ouais.
Bon, ça leur donne 3 de plus, donc ils finiraient à 9-8. Il faut absolument qu'ils aillent chercher une des victoires entre Tampa cette semaine, Nouvelle-Angleterre dans 2 semaines ou Arizona dans 3 semaines. Sinon, ça risque d'être trop serré. Tu sais, il y a les Browns, il y a les Bengals, il y a plusieurs équipes là, qui sont en train les de se battre là-dedans. Tu as les Steelers, on peut pas encore tout à fait éliminer les Raiders, les Broncos. Beaucoup d'équipes qui sont dans le même lot actuellement, là, autour de 500. Donc, il faut qu'ils aillent chercher un de ces 3 gros matchs-là qu'on mentionnait.
Et le seul problème que je vois aussi avec les Colts, c'est le carrière. Wentz, je suis pas encore convaincu que c'est l'homme de la situation avec les Colts, mais présentement, le club joue très, très bien. Il faut juste qu'ils continuent leur air d'aller. Et pour répondre, je dirais que si j'avais à mettre un bon vieux 2$, un vieux 2, là, papier, comme dans le temps, je le mettrais peut-être sur les Colts.
En série. Ça vaut cher, ouais, un vieux 2. Bravo.
Ouais, ça vaut cher, mais écoute, c'est le club le plus chaud présentement de la NFL.
Mick Dumaresque vous demande, quelle est l'équipe la plus dangereuse entre Green Bay, Arizona, Tampa Bay et Dallas?
On remarque une thématique NFC, carrément. Oui. Là, c'est toutes des équipes de la conférence nationale. Moi, je vais y aller avec Green Bay de mon côté pour quelques raisons. Là. C'est probablement l'équipe la plus complète en ce moment, la défensive qui me convainc le plus dans ces équipes-là. Il y a Aaron Rodgers, évidemment, qui est un facteur que tu peux pas négliger. Puis, il y a aussi plusieurs joueurs blessés d'impact qui vont revenir au parfait moment. Tu sais, je mentionnais Aaron Jones tantôt, là, mais il y en a des meilleurs que lui qui sont pas là en ce moment. Le demi de coin, Jair Alexander, quand il va revenir, ça va être très, très difficile de passer contre Green Bay. Le secondaire, c'est Darius Smith, qui va amener beaucoup de muscles sur le front défensif, qui manque un peu en ce moment. Il y a la ligne à l'attaque là, qui me fait peur, mais David Bakhtiari se rapproche d'un retour au jeu. Donc ça va aider énormément. Donc pour ces raisons-là, tu n'as pas le choix de considérer Tampa, là, évidemment, à cause de Tom Brady et de l'expérience du Super Bowl de l'an passé. Mais en ce moment, moi, j'ai tendance à dire que dans la conférence nationale, je veux pas affronter les Packers.
Jean?
Moi, c'est les Bucks. Ça reste que je veux pas affronter le GOAT Brady. Mais tu sais, on parle de Tom Brady puis de sa chaise, de sa marchette, là, mais il est bien entouré. Là.
Ah oui.
C'est tout un arsenal offensif qu'il a à sa disposition. Fournette joue du très bon football pour eux, mais quand tu regardes les receveurs, c'est là que ça. C'est vraiment un autre niveau. Là. Mike Evans, Godwin, puis Antonio Brown, quand il est là, c'est tout un trio de receveurs. Donc, quand tu mets ça entre les mains d'un excellent carrière, d'un bon coordinateur, en slash entraîneur-chef, ben les Bucks sont extrêmement dangereux. Puis moi, j'ose croire que la défensive va revenir à un niveau, peut-être pas exactement comme elle était quand elle a gagné le Super Bowl, mais un niveau acceptable, surtout okay. Dans la tertiaire.
On a beaucoup de questions, les gars, on continue. Joël Chevary, quelle est l'équipe la plus surévaluée et celle qui est la plus sous-évaluée?
Pour moi, la plus surévaluée, et là, je me ferai pas d'amis, ça fait quasiment mal de le dire, mais moi, c'est les Pats en ce moment. Pas qu'ils sont pas bons, ils jouent du très bon football, mais à cause du facteur Mac Jones, je suis pas convaincu que les Pats sont vraiment une équipe là, de Super Bowl. C'est que là, cette semaine, je consultais certains Power Rankings, puis je les voyais là, classé 2, classé 3. Pour moi, c'est trop haut. Il y a encore des meilleures équipes qu'eux autres dans le moment. Ils peuvent me faire mentir, mais je les vois pas dans la catégorie pour l'instant là, des Packers, des Titans lorsqu'ils sont en santé. Je sais qu'ils s'affrontent cette semaine, mais ils sont pas en santé, les Titans. Les Cardinals, les Buccaneers, je les vois pas encore à ce niveau-là. Donc, en ce sens-là, bonne équipe, mais un peu surévaluée. L'équipe la plus sous-évaluée, ben ça reste les Cards. Tu vois, moi puis Jean, on vient de parler des Bucks, on vient de parler des Packers. C'est comme si on oublie toujours qu'il y a les Cards dans le portrait. Est-ce que c'est à cause que c'est une équipe assez jeune puis qu'on se dit que Kyler Murray a encore du chemin à faire? Je ne sais pas, mais regarde, pour l'instant, il est même pas là. Ils sont 2-1 en son absence. Ça, c'est franchement impressionnant.
Non, pas juste lui qui est pas là, là.
Non, il manque de Andrew Hopkins aussi. Tu sais, c'est des gros joueurs quand même. Puis, j'ai l'impression que constamment, on voit les autres équipes, mais les Cards, ils gagnent. Puis, on continue de faire « Ouais, mais on n'est pas sûr ». Je sais pas exactement pourquoi, mais pour moi, c'est l'équipe qu'on sous-évalue le plus.
OK, Jean, surévalué, sous-évalué?
Surévalué, j'ai les Ravens. Présentement, moi, je trouve qu'ils jouent pas nécessairement de la bonne défensive. Quoi qu'ils ont joué un excellent match contre les Bears, mais ça reste les Bears. Offensivement, tout repose sur Lamar Jackson. Si les Titans sont maganés, les Ravens le sont également, mais ils trouvent une façon de gagner quand même. C'est ça qui est toujours impressionnant avec les Ravens. Ils sont bien coachés. John Harbaugh, c'est un excellent entraîneur. Mais j'ai vraiment l'impression que ce club-là est peut-être un peu surévalué parce qu'il est pas si fort que ça présentement.
OK. Dans ton équipe, la sous-évaluée?
Sous-évaluée, moi, j'abonde dans le cas de Stéphane. Je trouve que les Cards ont pas de love de personne. Les Cards, c'est présentement, ils ont montré que c'est probablement la meilleure équipe ou dans les 2-3 meilleures équipes de la NFL. Puis ils reçoivent pas d'amour. Je pense que le marché dans lequel ils évaluent, qui évolue. C'est pas quelque chose qui les aide présentement. Puis ils reçoivent pas beaucoup d'amour. Moi, je vais leur en donner. C'est une excellente équipe, elle est bien construite. Puis Kyler Murray, quand il va revenir, okay. Ça va être dangereux.
Des partisans qui ont besoin d'amour, c'est les partisans des Dolphins, puis Robert Proulx, qui en est un, espère une remontée des Dolphins avant la fin de la saison. Est-ce que c'est possible, d'après vous?
Ben, une remontée, c'est possible, oui, c'est même très probable. Tu regardes leurs 3 prochains adversaires, c'est des fiches perdantes, là, les Panthers, les Giants, les Jets. Donc, remontée, oui. Mais si on entend par remontée, présence en série, je pense qu'il est trop peu, trop tard. Écoute, ça va être une fin de parcours qui risque d'être valorisante là, pour les Dolphins. T'sais, ils seront plus l'équipe qu'on a vue en début d'année qui était carrément atroce. Mais comme je le disais, trop peu trop tard, la consolation pour eux, c'est qu'ils vont donner finalement un choix un petit peu moins élevé aux Eagles.
Jean, est-ce que les Dolphins peuvent retourner dans le playoff mix?
Non, parce qu'il y a trop d'équipes devant toi. À un moment donné, ça devient un facteur important. Puis ça te laisse aucune marge de manœuvre. Puis même si le calendrier est avantageux, je pense pas non plus qu'ils ont été nécessairement dominants dans leur victoire. Ils ont battu Houston, mais c'était pas si convaincant que ça. La semaine passée, c'était contre les Jets, puis ça n'a pas été un massacre non plus, là. C'est pas comme si c'était une domination totale des Dolphins. Écoute, il faut juste...
Leur effort le plus impressionnant, c'est contre les Ravens.
Ouais, pas de doute, effectivement. Mais ceci étant dit, je pense que ça va être un style de 500 d'ici la fin du calendrier, mais pour moi, ils ne feront pas les séries.
OK, hey, les gars, on a eu beaucoup de questions. Là, on va en faire une dernière. Qu'arrivera-t-il de Russell Wilson à Seattle après deux piètres performances? Réjean Perron qui nous pose la question. Lui, il s'inquiète peut-être pour son corps arrière là, qui a déjà... Il a déjà laissé entendre qu'il pourrait jouer sur d'autres cieux, sous d'autres cieux, puis ça ne l'inquiéterait pas.
Oui, ça c'en est une autre, mais il est quand même sous contrat aussi avec les Seahawks. Je pense pas qu'il est. Je n'ai pas vérifié nécessairement, mais je pense pas qu'il est agent libre à la fin de la saison.
Non.
C'est ça. Il est sous contrat pour un petit bout avec les Seahawks. Je vois pas pourquoi il irait évoluer sur d'autres cieux. Qu'est-ce qui va arriver? Puis selon moi, il va rien arriver. Ça arrive, deux mauvaises performances. C'est pas ce que Russell Wilson nous a habitué dans le passé, mais j'en ai parlé en début de saison. Je ne croyais pas aux Seahawks au début de l'année. Je ne crois toujours pas aux Seahawks, puis c'est ce qui me prouve. L'alignement est pas très bon. Ils doivent se revamper l'alignement pour espérer être redevenir ce qu'ils ont déjà été. Puis c'est une mauvaise saison. C'est une saison à oublier à Seattle. C'est une équipe qui ne fera visiblement pas les séries. Puis c'est tout. Ça arrive. On va passer à un autre appel l'an prochain, c'est tout.
J'abonde dans le sens de Jean sur un point, c'est qu'il y a un alignement carrément à retravailler. Là. On l'a vu quand Russell Wilson est parti, c'était encore plus triste que maintenant qu'il est revenu. Ça a été très difficile. Puis pour ça, moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être les derniers milles de Russell Wilson à Seattle. Si lui va voir la direction à la fin de l'année et qu'il se dit « Écoute, l'an passé, on a réussi à mettre nos différents de côté. J'ai accepté de revenir. Là, je vois pas où on s'en va comme équipe. Moi, j'approche tranquillement là, la mi-trentaine. J'ai le goût de gagner. Je veux m'assurer.
Et Pete Carroll sera pas là éternellement non plus, non?
Il risque d'y avoir des changements à Seattle. Là. Je serais pas surpris, moi, qu'on dise, écoute, c'est le temps d'aller chercher une grosse, grosse valeur pour Russell Wilson, reconstruire notre alignement. Écoute, ça va prendre du tordage de bras, j'ai l'impression.
Moi, je vais te poser une question, Stéphane. Qui va sauter? C'est Wilson ou c'est l'entraîneur-chef, s'il y a un différent entre les deux? Moi, j'ai l'impression que Russell Wilson, il va rester en place. Puis, j'ai beaucoup de respect pour Pete Carroll, ce qu'il a fait à Seattle. J'ai l'impression que c'est lui qui va sauter s'il y a un problème, s'il n'est pas capable de s'arranger avec son carrière vedette.
Mais je suis même pas convaincu, Jean, que c'est un conflit entre Carroll et Wilson. Je pense que c'est tout simplement Wilson qui regarde l'état des choses avec les Seahawks et qui se dit « Je pense que j'ai plus de chances de gagner ailleurs. Je sais plus exactement quel âge qu'il a, Wilson, mais il est dans la trentaine. Il voit les années passées. Il a été magané, puis pas à peu près à Seattle. C'est un des carrières qui s'est le plus fait démolir dans les dernières saisons. Là. Ça a été vraiment très difficile physiquement. Puis sans dire qu'il est en guerre avec Pete Carroll, peut-être que c'est plus au niveau de la direction de l'équipe puis de la philosophie d'aller chercher des joueurs qu'il faut. Je ne sais pas exactement c'est quoi là, la nature de l'amertume.
De leur mésentente. Là.
Avec Russell Wilson. Mais je ne suis pas convaincu que c'est un choix entre on garde Carroll ou on garde Russell Wilson. Je pense que c'est plus Russell Wilson qui peut dire « Écoute, si je m'en vais à XXX place, là, il faut que tu y trouves, par exemple, les endroits où ça va être tant mieux que ça. Là. Mais si lui voit une opportunité ailleurs puis qu'il y a une équipe qui est prête à payer, faudrait pas s'étonner là, qu'il s'en aille. »
Je dis juste que, de mon côté, que Pete Carroll, c'est l'entraîneur-chef le plus âgé de la NFL.
Ouais. That's it.
Donc, il en reste plus longtemps.
Non, c'est ça. Il sera pas là éternellement, on s'entend, mais en tout cas, il a pas l'air à vouloir partir, c'est ça aussi. Là. OK, ben...
Puis il se tient en forme. Si j'ai l'air de ça à son âge,
on va être bien fiers.
Coup de chapeau.
J'espère que ça répond à votre question, M. Perron. Et on va peut-être avoir la réponse, tout le monde, à la fin de la saison, de toute façon. Continuez de nous envoyer vos questions. On va peut-être en faire une habitude là, de répondre à vos questions à chaque semaine.
Oui, sur NFL Fan du Québec.
Du Québec ou trouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est très actifs. On y va-tu avec une question quiz avant la pause? Êtes-vous game de répondre à une question?
On est prêt.
Mike Evans, il y a quelques semaines, Mike Evans a remis le ballon dans la foule, un ballon record du nombre de passes de Tom Brady. Et là, il a dû aller le récupérer. Là, cette semaine, il a battu le record de tous les temps pour le nombre de touchés pour un joueur des Bucks. Il a gardé le ballon dans ses mains, il l'a pas remis à la foule.
C'est bien.
Mais qui détenait le record du nombre total de touchés pour les Bucks avant Mike Evans?
Hey, moi, j'irais, à moins que Jean veuille s'essayer avant.
Écoute, je vais essayer Mike Alsa. Mike Alsa.
Bonne réponse!
Oh! On est fort!
Oui, bonne réponse.
Mike Alsa est un joueur fabuleux à avoir joué. Là. C'était fantastique. Probablement le dernier grand fullback qui courait vraiment avec le ballon. Là, parce qu'on en a encore de très bons fullbacks dans la NFL. Mais c'est plus devenu des bloqueurs, là, t'sais, plus qu'autre chose, à part un jeu ici et là. Mais
Mike Alsa, on prend même des joueurs en défensive. Là.
Ah oui, mais c'était de toute beauté pour ceux qui l'ont vu à l'œuvre.
Ceux qui l'ont pas vu, allez voir quelques clips sur YouTube, ça vaut la peine. Et il faut juste s'imaginer maintenant qu'est-ce qu'il ferait avec des boîtes à 5 ou 6 joueurs. S'il serait en shotgun, ça prendrait peut-être un peu plus de monde pour l'arrêter.
OK, merci les gars. Bonne réponse. Ça prouve encore que j'ai de la difficulté à vous coincer chaque semaine. Mais là, après la pause, on va voir si je vais être capable de vous coincer. On va parler de vos résultats de prédiction de la semaine et on va faire nos prédictions pour la semaine qui s'en vient, la semaine du Thanksgiving. Bougez pas.